Une petite abeille rend toujours service. Comme les abeilles, elle les fleurs à pousser. Elle est sympathique et gentille et agit de manière responsable et combat le communisme.
Butiner, polliniser et surtout essaimer, le buzz de Libre Radio alerte l'espèce, produit et répand de la contre-parole. Rejoins-nous sur www.libradio.org.
Certainement, comme le dit l'adage du jingle, il n'y a pas de plus, rien n'est plus communiste qu'une abeille et son essaim. Donc ça fait un petit peu bizarre d'entendre que les petites abeilles combattent le communisme. Bienvenue à toi, auditrice et auditeur. Nous sommes en compagnie d'une personne qui vient faire jouer dans l'instrument particulier. Tout ce mystère, pourquoi ? Parce que justement, eh bien, on va te révéler ça step by step. Sache que nous sommes donc sur le site du festival Chateaubriand. Aujourd'hui, dimanche 9 juillet 2017, que le festival connaît demain son jour de relâche. Donc lundi, ne viens pas au Paquis, en tout cas pour ça. Parce que nous n'y serons pas. Demain, on roupie. Et gare à toi si tu nous déranges. Par contre, de mardi à samedi prochain, toute la semaine prochaine, les concerts vont reprendre. Les concerts, il y aura du slam, notamment mercredi, avec 2-3 slameurs même qui seront là. Donc tu es invité à ce moment-là à venir rédiger un texte. L'atelier commence à 17h30, 18h. Et puis vers les 19h, il y aura la scansion, les énoncés des textes en public qui seront faits de ces textes produits sur place. Mercredi également, c'est un moment important, une centralité du festival, puisqu'il y aura le défilé de mode organisé par nos associations partenaires, nos associations de solidarité. Chaque année, Chateaubriand côtoie des associations solidaires. Cette année, le thème, c'est l'Afrique et plus particulièrement la Gambie, puisque les deux associations partenaires sont Njabakunda et Swiss Gambia Solidarity, qui toutes deux s'occupent de projets de scolarisation dans différents villages en Gambie, et que c'est donc pour ça qu'on les soutient cette année et que ces associations sont présentes sur le site. Donc si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à nous rejoindre ici de mardi à samedi prochain. Le programme est effectivement très chargé, donc je ne vais pas en faire l'énoncé, mais tu le retrouves dans son intégralité sur le site de la Comète, www.lacomete.ch, et sur le blog dédié www.chateaubriand, château avec un O, noblogs avec un s.org. Voilà. Alors nous allons parler musique, parce que voilà, cet après-midi est consacré un petit peu, après le côté librairie, hein, nous avons parlé longuement avec Laetitia de la librairie Cumulus, et il s'agit maintenant de parler musique. Bienvenue à toi.
Bonjour.
C'est la première fois que tu fais de la radio.
Ouais, à ton complètement. Dit.
Très bien. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tu es bien installé ?
Ah,
est-ce
oui,
que
parfait, ça va ? Parfait.
Alors, je vais te laisser peut-être te présenter toi-même déjà, parce que tu as un parcours quand même très jeune, mais quand même déjà un parcours sérieux dans la musique, puisque ça devrait être a priori ta vocation.
Exactement. Alors, je m'appelle Fantin Calame, j'ai 20 ans, et je suis vibraphoniste, justement. Je joue de l'instrument de vibraphone. Et j'ai commencé à 10 ans à peu près à faire de la percussion classique. Du coup, tout ce qui prenait en compte percussion classique, la caisse claire. Enfin.
Et, c'était la question qui allait juste arriver maintenant. Tu vois, j'ai même pas terminé de la rédiger que tu y réponds déjà. Alors voilà, la percussion classique, ça, qu'est-ce que ça englobe comme instrument ?
Ça englobe un grand nombre. On prend toutes les percussions en orchestre, les timbales, le xylophone, la caisse claire, mais aussi la batterie aussi, mm-hmm. qui est pris en compte. Et encore plein d'autres instruments. En fait, tous les instruments à percussion sont pris dedans. Du coup, on se retrouve plus à jouer un ensemble d'instruments que réellement jouer un instrument.
D'accord. À 10 ans, tu es tombé dedans parce que tu es un enfant de la balle, ou comment est-ce que tu es tombé dedans ?
Alors au départ, c'est assez drôle comme histoire, je voulais absolument faire du piano, mais je passais mon temps à faire des bruits insupportables. Et mes parents en avaient, comment dire, très vite marre, parce qu'ils ont une patience limitée comme tous parents.
Ouais, ils t'ont donné un os à...
Et du coup, ils m'ont proposé des cours de percussion. Et puis finalement, je me suis retrouvé avec pas mal de facilité et pas mal de plaisir à jouer au départ, ou jouer dans des petits ensembles de percussion, on commence comme ça. Puis après, on a des cours individuels un peu plus tard.
D'accord. Quand on devient... Est-ce qu'on dit percussionniste classique ? Non. Comment est-ce qu'on désigne percussionniste d'orchestre ?
On dit percussionniste classique en général.
Percussionniste
après,
classique.
Après, il y a des percussionnistes classiques que j'admire grandement, parce que la capacité à compter 180 mesures, ce qui fait à peu près... Ça peut compter jusqu'à 10-15 minutes, à compter chaque temps pour à la fin jouer 4 coups de triangle... Ça demande une patience des plus hallucinantes.
Mais absolument. Est-ce pour ça que ces personnes, comme tu l'as dit, sont multitâches, c'est-à-dire qu'elles passent des timbales au triangle.
Oui, complètement.
C'est parce qu'elles ont le temps, quelque part.
Oui, oui, aussi, aussi. Elles ont la patience.
Elles ont la patience. À quoi ressemble une partition de triangle ou de timbales, justement ?
C'est une partition.
Donc on a une portée.
Beaucoup de lignes noires, ouais, exactement. Voilà. Et puis les lignes noires, c'est le nombre de mesures à attendre. Et puis quand on voit 660.
Mais après, on a quoi ? On a une blanche, une ronde,
ouais.
Une
ouais, exactement.
Classique.
Ouais,
vraiment, voilà, une note. Et puis à ce moment-là, on tape.
Ouais, exactement.
Mais tape-t-on différemment selon la partition ? Tu sais, dans une partition, on a un crescendo, on a un ritardando, on a toutes ces notions-là. Est-ce qu'elles existent également dans
oui,
la
totalement,
percussion ?
Oui, totalement. Il y a une manière de frappe et il y a toute une technique. Mais ça m'a intéressé partiellement, mais tout ce qui est... En fait, le problème, c'est que la percussion prend en compte énormément d'instruments qui ne sont pas mélodiques, c'est-à-dire où la note n'est pas déterminée.
Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Bon, on va laisser ça derrière. C'était juste les quelques questions parce que tu as dit que tu étais tombé là-dedans finalement à l'âge de 10 ans. À quel moment est-ce que tu es passé de la percussion au vibraphone ?
Alors, en fait, je suis resté jusqu'à maintenant dans la percussion classique. J'ai continué les cours de percussion classique jusqu'à mon certificat cette année. Mais je dirais que déjà, dès le départ, je sentais que j'avais plus de plaisir à jouer sur des claviers. Et un jour, j'ai eu l'occasion de recevoir un vibraphone, ce qui est une sacrée chance. Et encore un grand merci à mes parents. Et du coup, j'ai pu commencer à cet instrument et j'ai directement croché dessus. Et je n'arrivais pas à jouer le reste. En fait, je détestais travailler la caisse claire, les études insupportables qui duraient des heures. Bref. Et je me suis vraiment familiarisé avec le vibraphone. Je suis tombé complètement amoureux de cet instrument. Et du coup, j'ai décidé d'en jouer. Totalement, ne faire
D'accord.
plus que cet instrument.
Décris-nous peut-être l'instrument. Qu'est-ce qu'un vibraphone et y en a-t-il de différentes factures ?
Alors, un vibraphone, c'est un instrument mélodique qui est fait de lames de métal d'un alliage que je ne connais pas, mais bon, c'est pas très grave. Mm-hmm. Si on veut, c'est comme un xylophone, mais en métal et avec une pédale de résonance, c'est-à-dire qu'on peut laisser sonner le son, on peut maîtriser la durée du son. Et après, on peut rajouter des... Il y a un système de pales qui tourne pour pouvoir rajouter des effets, mais c'est principalement ça. Si on veut, les lames sont placées comme sur un piano. Du coup, ça ressemble assez au piano, sauf qu'à la différence, on joue avec des baguettes et on peut jouer soit à 2, soit à 4, soit à 6 si on est vraiment très patient.
Baguettes.
Ouais, exactement.
Ouais. Et les baguettes dont les embouts sont en velours, en étoffe ?
Alors, c'est du tissu, en fait, tout simplement. Mm-hmm. C'est du tissu, c'est de la laine, je crois, tissée, okay. Tout simplement.
Est-ce que tous les vibraphones ont, je ne sais pas combien de portées, là, je n'arrive pas à voir depuis ici, mais est-ce que c'est tous à peu près le même format ?
Alors, non, là, le format que j'ai de vibraphone, c'est un format 3 octaves qui est la version classique, mais après, plus rare, il y a des octaves 3,5, c'est-à-dire. C'est-à-dire 3 octaves et demi en total. Et il y a encore plus rare des vibraphones 4 octaves. Mais principalement, on utilise les 3 octaves parce qu'ils sont les plus courants et qu'on n'a pas besoin d'utiliser. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on doit se limiter à 3 octaves car le métal, si on va plus bas ou plus haut, on n'arrive plus à maîtriser le son. Et du coup, il y a trop d'autres sons, d'autres harmonies, d'autres sonorités qui ressortent et on n'arrive plus du tout à maîtriser. Du coup, c'est pour ça qu'on reste principalement sur un modèle de 3 octaves pour maîtriser le son et pour avoir des notes compréhensibles, en fait, tout simplement.
Je comprends, oui, tout à fait. Oups. Dis-moi, la disposition des lamelles est-elle toujours la même ? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est donc vers. Toi, tu es côté ton entier et puis les demi-tons sont plus loin de toi.
Oui, c'est toujours comme ça.
Ça, c'est toujours comme ça, c'est un standard.
Oui, exactement.
D'accord. Tu as parlé des ailettes, alors ces ailettes-là peuvent donner l'effet un petit peu qui est celui du piano avec la pédale, c'est
oui.
Ça que tu disais ?
Non, c'est pas ça. En fait, c'est qu'il y a déjà une pédale de résonance où on maîtrise ça,
ouais.
Mais si on rajoute les ailettes, en fait, la résonance peut être modifiée du coup on obtient un autre son, en fait, tout simplement.
J'ai compris. Igor a une question pour toi.
Oui, moi je voulais savoir, tu disais tout à l'heure 2, 4 ou 6 baguettes, est-ce que ça arrive de jouer à 2 à 4 ou 6 mains par exemple?
Malheureusement, en fait, le clavier est trop court et en général on joue tout seul sur un clavier et on joue principalement à 2 ou à 4. 6 c'est très très rare et le problème c'est qu'on peut pas maîtriser très bien de base. Il n'y a pas de technique qui existe pour maîtriser à 6 baguettes.
Le vibraphoniste est-il un soliste ou des fois pas ?
Ça dépend. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le vibraphone est très peu utilisé en classique. C'est assez rare. On a fait des adaptations de pièces classiques pour vibraphone, mais c'est très très rare. Là où il est vraiment utilisé, c'est dans le jazz. C'est vraiment là où, à partir des années 20, parce qu'il a été inventé dans les années 20, où on a commencé à l'utiliser pour faire du jazz. Je peux par exemple citer Milt Jackson, qui était un des grands premiers vibraphonistes. Et ça, c'est souvent utilisé. Le vibraphone joue le thème la plupart du temps. D'accord. Joue le thème et est soliste.
Et soliste, du coup, ouais, tout à fait. Tu as répondu également en avance à mes questions parce que je me demandais si effectivement c'était plus le jazz ou s'il y avait d'autres répertoires dans le vibraphone et quelles étaient les figures tutélaires éventuellement dans, par exemple, un répertoire classique. Mais comme tu l'as dit, c'est très peu utilisé finalement dans de la musique classique. Mais ça existe quand même un petit peu.
Ça existe un peu. En fait, la chose, c'est que le vibraphone vient avec la démocratisation de la voiture. C'est quelque chose où principalement... On peut prendre l'exemple du piano qui est très difficile à transporter. Et l'avantage avec un piano, c'est qu'il y en a un peu partout dans toutes les salles. Du coup, on en trouve. Par contre, les vibraphones, c'est beaucoup plus rare. Du coup, pour trimballer un instrument aussi grand, il faut automatiquement avoir un véhicule, principalement. Et aussi, l'autre chose, c'est que les lames sont formées d'aluminium. Et que l'aluminium, on ne pouvait pas en avoir avant le...
C'est un instrument finalement industriel. Reprends ton souffle tranquillement. Si ça te va. Reprends ton souffle tranquillement. En tout cas, l'instrument, pour le décrire effectivement depuis ici, c'est vrai qu'on a assez... Visuellement, il est assez intéressant, dans le sens où on voit effectivement ses lamelles, ses tubes. On a l'impression, et les baguettes qui sont là, on a envie d'aller tapoter un petit peu tout ça, assez automatiquement. Hein. J'imagine que tout le monde, quand tu arrives avec un instrument comme ça, la curiosité des gens se met en alerte. Hein.
Mais c'est assez drôle parce que, en fait, souvent les gens viennent et touchent l'instrument. Et je me suis dit, mais... Comment il réagirait avec un violon? Il viendrait pas toucher, il demanderait l'autorisation. Et là, c'est vraiment habituel. Du coup, j'ai pris une bonne habitude pour faire remarquer aux gens que c'est un peu inadéquat de toucher l'instrument parce qu'après, ça nous laisse des grosses marques de doigts dégueulasses. Bref,
ça sent le vécu.
La solution, c'est de leur toucher le front, en fait. Et du coup, après, ils vous regardent principalement très bizarrement, mais ils comprennent peut-être un peu plus tard
l'intrusion.
Et puis même des fois, il y a des gens qui viennent toucher l'instrument alors que je suis en train de jouer, quoi. Mais on s'y fait.
Ah, mais tu sais,
ça s'appelle de la patience. Quoi.
On a des cannes à la radio, c'est assez intéressant. On en a eu un tout à l'heure. Hein. Voilà. Mais quand tu dis toucher le front avec le doigt, tu leur mets pas des coups de tête balayette.
Ah, non, faut pas déconner.
Camille, tu avais une question.
Oui, une question parce que tu parlais du jazz et aussi des percussions, de ces choses-là. Je me demandais si c'était davantage les percussionnistes qui s'étaient tournés vers cet instrument ou si c'est les claviéristes, les pianistes qui jouent principalement du vibraphone.
Ça dépend, mais souvent quand on est en percussion, on a une préférence pour un instrument et on se spécialise souvent là-dedans. Du coup, par exemple, il y en a souvent dans les orchestres classiques qui sont des très bons timbaliers. Du coup, on va décider qu'ils vont faire principalement des timbales ou d'autres choses dans le genre. Mais là, dans ce cas-là, c'est un peu difficile parce que c'est souvent d'horizons très différentes que viennent les vibraphonistes. C'est souvent des percussionnistes, effectivement, mais ça dépend. Par exemple, il y a Lionel Hampton qui était un excellent batteur et qui faisait aussi du vibraphone. Il y en a des qui ont fait uniquement du vibraphone. Il y a comme Gary Burton qui était un très grand, qui a d'ailleurs arrêté il n'y a pas longtemps. Mais lui, il était pianiste au départ et il a voulu jouer du vibraphone aussi. Du coup, ça dépend. Les horizons sont totalement différents pour commencer du vibraphone.
Très bien. Les baguettes, alors on a parlé de ces baguettes-là qui, j'ai l'impression, sont celles qui sont usuelles avec ce bout de tissu. Y en a-t-il des différentes, comme par exemple pour une caisse claire et au jazz, où on peut utiliser des fois des balais ou d'autres types
alors,
de baguettes?
Oui, il y a plusieurs matières plus ou moins dures. Alors ça, ça dépend extrêmement. On peut acheter tout le temps des plus dures, des moins dures. Mais vibraphone, en tout cas dans le cas du vibraphone, c'est très souvent... des baguettes fait en tissu. Enfin,
d'accord, en laine, quoi. C'est l'usage, quoi. D'accord. Dis-moi, alors toi, tu es 20 ans, hein, Fantin, tu es très jeune. Combien de temps t'a-t-il fallu? Parce que souvent, on dit aux pianistes, munissez-vous de patience, parce que voilà, c'est un petit peu compliqué, il y a une main gauche et une main droite, tout ça, enfin l'équivalent de voilà. Combien de temps faut-il avant d'arriver à sortir une mélodie, disons, mélodieuse au vibraphone? Enfin, combien de temps as-tu mis toi-même?
En fin de compte, ça allait assez vite parce que vu qu'il y a beaucoup de gens qui passent pas mal de temps à écrire des études adaptées, il y a de très belles pièces assez simples à jouer au vibraphone. Du coup, ça met du temps. Par contre, là où ça prend plus de temps, c'est à apprendre la technique 4 baguettes parce que c'est très particulier. Et il faut, enfin, on a deux baguettes dans chaque main, du coup. Et il faut s'habituer à changer l'écart. Et c'est assez difficile, mais ça vient au bout d'un certain temps. Normalement, on commence la deuxième année de percussion quand on joue avec un professeur seul. À commencer les deux à 4 baguettes. Et puis après, on travaille de plus en plus. Quoi.
Ouais. Est-ce que les 4 baguettes, c'est pas finalement... Alors, on a plus de sons parce qu'on démultiplie le nombre de lamelles que l'on percute, mais moins de sensibilité parce que j'imagine que la manière dont on les tient permet plus difficilement de donner le poids, l'intensité du coup, ou pas. Où on arrive à faire les deux.
Non.
Avoir autant de sensibilité que...
La grosse différence, c'est pas vraiment au niveau de l'intonation, c'est au niveau du poids. En fait, il y a des vibraphonistes 4 baguettes qui décident de passer à 2 baguettes parce qu'ils sont limités à la vitesse à laquelle ils peuvent aller parce que c'est trop lourd et que c'est plus difficile à manier forcément. Mais principalement, on peut être aussi expressif avec 4 ou 2 baguettes.
2 baguettes, d'accord, ça n'a pas d'influence. Ok, revenons-en quelques moments encore pour quelques questions, puis ensuite on va te laisser justement faire le... opérer la magie et le spectacle, le concert. Mais donc toi-même, tu fais tes études ici à Genève, au conservatoire. Y a-t-il un conservatoire où les vibraphonistes vont étudier ?
Alors non, ça, le gros problème, c'est que c'est assez compliqué. En fait, moi, j'ai commencé avec la percussion classique et les cours de vibraphone seul, ça n'existe que très peu. À Genève, il n'en existait pas, en fait, mais j'ai discuté avec un professeur qui est Raoul Esmerod, qui avait fait pas mal de vibraphone et qui m'a proposé de faire des cours cette année avec lui, des cours en privé. Mais avant, il y avait juste des ateliers de temps en temps. Mais c'est principalement la percussion classique. Il existe à Lausanne, c'est à peu près le seul endroit en Europe d'ailleurs, où il existe une spécialisation uniquement en vibraphone et un professeur de vibraphone, mais c'est très 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 rare. Et c'est ça qui est particulier, c'est que c'est un instrument assez nouveau, qu'il n'y a pas énormément de répertoire et qu'il y a peu de... Il y a peu de vibraphonistes, en fait.
Ouais, ça veut dire que dans les deux conservatoires à Genève, ils ne sont pas prévus de cursus de vibraphonistes.
Non, par contre, moi j'étais en pré-pro à l'AMR l'année dernière.
Ah, ok.
Et là, c'est possible de faire vibraphone, mais j'ai dû discuter quand même avec Raoul Esmerod pour faire des cours avec lui.
Ça veut dire que, comme tu le disais tout à l'heure, ça se confirme, en fait, le répertoire effectivement est très jazz. Est-ce que tu penses, quelles sont les postérités que l'on peut voir s'ouvrir à l'horizon concernant le vibraphone? Est-ce que tu penses que très automatiquement ça va s'ouvrir à autre chose que le jazz? Est-ce que, à l'inverse, tu penses que c'est quelque chose qui vraiment va rester un petit peu quand même dans cette niche-là, selon toi?
Alors, je ne sais pas du tout. Moi, j'ai un grand amour pour toute la musique classique et en particulier la musique romantique. Et j'ai commencé déjà à écrire 2-3 pièces. Je pense que, on verra s'il y a des compositeurs qui l'utilisent, parce que c'est beaucoup utilisé dans le contemporain aussi. Je ne l'ai pas particulièrement dit, mais tout ce qui est dans la musique qui a été fait au XXe siècle, on a commencé à utiliser le vibraphone. Mais je pense qu'il faut faire ce répertoire, en fait. C'est qu'il n'existe pas et puis on peut attendre. Mais par exemple, j'ai écrit pour ma composition de maturité un quatuor à cordes et vibraphone. Et puis vraiment dans le style classique des plus standards.
Ah ouais, génial. Ça serait, comme tu vas certainement faire ton métier,
oui.
Les adaptations, tu pourras certainement faire. Est-ce que toi, justement, comme tu... Il y aurait des pièces classiques comme ça qui t'inspireraient immédiatement ou certains parmi des auteurs, je sais pas, on cite beaucoup Bach, hein, notamment pour le jazz, mais certains que tu verrais justement plus appropriés à en faire des adaptations vibraphone.
Alors c'est quelque chose de très sensible parce que il y a beaucoup de puristes et je les comprends assez bien parce que c'est difficile de modifier une pièce qui a été écrite pour le piano. Par exemple, là j'ai une pièce de Debussy que je joue, une adaptation, Le Clair de Lune. Elle est bien, elle est très bien, mais je trouve un peu irrespectueux par le fait qu'on modifie la pièce et que souvent ces personnes ont très très bien réfléchi à chacune des notes, enfin savent exactement pourquoi elles les placent et du coup modifier l'instrument c'est toujours quelque chose d'assez difficile. Il y a eu des pièces, beaucoup de pièces pour piano qui étaient faites à l'origine pour pouvoir être modifiées et être écrites pour orchestre. Et ça, je comprends que c'était plus facile à faire. Mais après, les modifier, et souvent le problème, c'est que par exemple, les pièces qui sont le plus accessibles pour les modifier et passer du piano, c'est souvent le piano en fait qu'on utilise des pièces pour piano et après on les fait pour vibraphone. Et le problème, c'est qu'on est souvent limité parce qu'on a 4 baguettes et qu'un pianiste a 10 doigts. Du coup, c'est toujours un peu plus compliqué.
Bien sûr, effectivement. Ouais. Dis-moi, y a-t-il, tu as assez régulièrement, tu arrives à sortir ton instrument malgré le fait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce sont des instruments relativement encombrants et lourds. Est-ce que tu arrives à faire des concerts dans des lieux un petit peu comme ça singuliers? Et quels sont les lieux justement que tu préfères? Est-ce qu'il faut une grotte, plutôt une caverne, une église, un truc comme ça, quelque chose qui a beaucoup de résonance, ou en plein air comme aujourd'hui tu vas t'y essayer, est satisfaisant pour toi?
Ça m'est assez égal l'endroit où je joue, parce que finalement on s'habitue assez vite au son, et le gros avantage avec le vibraphone, c'est qu'il sonne extrêmement fort. Quand je joue dans, ça m'arrive des fois de jouer dans les rues basses, c'est impressionnant. J'ai des amis qui me disent que je suis à un bout, disons, ça fait à peu près 300-400 mètres de l'endroit où je joue, et ils m'entendent jouer. Du coup, c'est un peu égal, mais c'est assez intéressant. Dans les églises, c'est très 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 difficile à jouer, parce que déjà que l'instrument sonne très fort, mais alors en plus dans une église, on a une résonance et ça devient très vite flou. Mais c'est assez intéressant. Et puis l'avantage, c'est que du coup on peut jouer dans des endroits où on n'est pas amplifié. Le seul problème, je pense, c'est les endroits qui sont suffisamment grands pour qu'on joue amplifié, mais où on entend quand même quand on ne joue pas amplifié. Du coup on entend les deux sons, on entend le son que je joue,
ouais,
et en plus le son amplifié, ouais. Et du coup là ça pose problème, mais en général sinon il n'y a pas trop de problèmes pour jouer dans des endroits différents.
D'accord. Est-ce que parmi ton répertoire, de temps en temps, tu pars, tu sais, souvent on a des personnes, voilà, qui ont ce type d'instrument un petit peu singulier, font des clins d'œil ou des choses comme ça. Est-ce que par exemple de la musique de film pourrait t'intéresser, ce serait marrant d'avoir quelques petites choses comme ça, ou d'autres types de mélodies? Est-ce que ça, c'est aussi un répertoire, disons, un petit peu bouffe ou un petit peu amusant comme ça? Est-ce que ce sont des pistes que tu pourrais envisager?
Alors, j'aime bien faire un peu de la musique de film, mais dans le répertoire, il ne faut jamais oublier que... Enfin, moi, je sens en général quand quelqu'un joue quelque chose qu'il n'aime pas. Et souvent, en fait, par exemple, les gens qui jouent dans la rue, ils jouent des choses qu'ils n'aiment pas, et ils croient que ça donne bien, finalement. Mais ça ne donne pas bien parce qu'eux-mêmes n'y croient pas vraiment. Et du coup, je trouve ça amusant de travailler, de connaître les mélodies, de faire des références, mais il faut que ça reste une place un peu en arrière, c'est-à-dire que principalement on fait les choses qu'on aime, et puis des fois on peut faire des petites citations de phrases, qui c'est toujours assez drôle, mais ça doit rester quelque chose d'un peu exceptionnel.
La plupart du temps tu joues comme soliste dans la rue, ou te fais-tu de temps en temps accompagner d'une voix ou d'un autre instrument?
Alors en ce moment j'ai pas mal joué du jazz du coup à l'AMR en groupe, mais j'aime bien jouer seul. Et j'aime bien aussi jouer en groupe. Là, par exemple, j'ai un groupe qui s'appelle Not Yet, qu'on a monté cette année. Et on est 5 musiciens, batterie, basse, saxophone, guitare. Et on s'entend très bien, et c'est assez agréable de jouer avec eux aussi, parce qu'on n'est pas obligé de faire tous les rôles. Parce que le problème, c'est quand on joue tout seul, on doit faire l'harmonie, mais aussi la mélodie. Enfin,
bien sûr.
Il faut vraiment remplir. Et, et du coup, c'est assez agréable parce qu'on peut juste faire soliste ou juste faire l'accompagnement.
Ouais.
Et c'est quand même plus reposant.
Ouais. Encore deux, trois petites questions. Et puis, évidemment, autour de nous, si des questions surgissent, on y va. Puis après, on te laissera tranquille. Dis-moi, est-ce qu'il existe des ensembles de vibraphonistes où un vibraphone pourrait répondre à un autre avec un phrasé musical et puis l'autre répondrait, ou alors tout simplement comme tu sais le quatuor terpsichore jouer en même temps, où ça c'est pas trop, disons, le format?
C'est très difficile parce que le problème, c'est que c'est un instrument qui prend beaucoup de place. Du coup, du moment qu'on en a deux ou trois, ça prend énormément de place. Ce qui se fait assez souvent, il y a des pièces où on a plusieurs marimbas et plusieurs xylophones, plusieurs instruments de percussion et un vibraphone. Mais c'est très difficile de l'avoir à plusieurs. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un instrument qui prend beaucoup de place, enfin, au niveau sonore. Et du coup, c'est plus difficile de le mettre totalement
ouais.
Enfin, de jouer à plusieurs. Quoi.
Absolument. Tu as dit que tu avais donc un groupe, un Not Yet, c'est ça?
Exact.
Voilà. Est-ce que tu... Une actualité des prochains concerts qui arrivent, des dates à nous annoncer,
alors,
dans ce format-là ou dans d'autres?
Pas encore, c'est un peu la pause de l'été où enfin, malheureusement les différents musiciens vont partir en vacances, mais on va remonter, on va retravailler le répertoire. On a déjà plusieurs compositions sur le feu. On pense d'ici septembre à peut-être sortir un EP avec 5-6 morceaux, parce qu'on les a déjà, quelques morceaux qu'on a composés. et puis voir ce qu'on peut faire. Mais pour l'instant, on a, enfin c'est un peu la pause de l'été et puis différents musiciens partent. Du coup, on va travailler chacun un peu de nos côtés. Mais ouais. Et puis c'est un peu difficile parce que les différents musiciens ont tous un peu une direction différente. Par exemple, le saxophoniste aimerait bien aller en classique, en saxophone. Et du coup, c'est difficile, mais on a quand même assez envie de percer avec ce groupe parce que je crois qu'il y a quelque chose vraiment à faire, assurément.
D'accord. De quelle manière est-ce qu'on peut, y a-t-il un site, de quelle manière peut-on te contacter ou avoir voir quelques images ou entendre quelques sons? Y a-t-il un site internet ou...
Alors non, pas encore. Ça devrait pas tarder, je pense. Je devrais m'y mettre. Mais pour l'instant, j'ai pas encore mis ça en place. Et puis surtout, le truc qui est très important, je considère que quand on met quelque chose, par exemple sur le web ou quoi que ce soit, ça doit vraiment être de très bonne qualité. Et je préfère encore travailler beaucoup plus et arriver vraiment à un niveau où je peux donner vraiment de la très très bonne qualité. Mais il est possible que ma composition de maturité, je l'enregistre et je la mette sur YouTube d'ici peu pour faire. Mais j'ai toujours cette envie où je me dis finalement ce qu'on met, ce qu'on inscrit concrètement, c'est très différent de ce qu'on va jouer une fois dans une performance. Du coup, ce qu'on inscrit doit être vraiment très bien réussi, doit être vraiment juste dans ce qu'on veut exprimer.
Très bien, non, mais c'est tout à ton honneur en tout cas. Donc pour le moment, pas d'adresse de contact ou quoi?
Pas
encore, ça reviendra, on fera de la radio un petit coup du coup. Fantin, je te remercie beaucoup, je te souhaite d'ores et déjà un bon concert.
Merci.
Y a-t-il
beaucoup
des questions encore qui surgiraient ici, Camille?
C'était une question, tu disais que tu avais écrit des morceaux. Est-ce que l'écriture, c'est quelque chose qui te vient facilement? Est-ce que c'est un processus qui demande beaucoup de travail? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris? Enfin, voilà, parle-moi de l'écriture pour cet instrument. Tu parlais en plus d'écrire tout le répertoire, donc tu te permets, je suppose, des nouveautés pour cet instrument. Et comment ça se passe, tout ça?
Alors, en fait, le quatuor à cordes, le quintet que j'ai fait, c'est la première vraie pièce que j'ai écrite parce que j'ai toujours fait beaucoup beaucoup d'improvisation et repris les éléments que j'apprenais dans mes morceaux. Et du coup, c'était quelque chose de pas du tout naturel en fait d'écrire au départ pour moi. Normalement, j'improvisais et puis ça venait tout seul et puis inscrire sur papier, c'était une étape qui m'a pris beaucoup beaucoup de temps. Parce que c'est difficile, on veut faire tout trop bien directement et on peut pas accepter juste que au départ on fait des trucs pas bien et puis qu'on retravaille, on retravaille, on retravaille. C'est là où ça donne des bonnes œuvres quoi. Et du coup non, ça m'est pas venu tout de suite. En fait, sincèrement, je crois que j'ai bien mis 6-7 mois avant de commencer à écrire cette pièce. Mais c'est un travail de fond qui est énorme d'écrire, c'est vraiment quelque chose. Mais en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment, par exemple, que j'entendais des mélodies et puis j'arrivais à les imaginer dans d'autres instruments et puis j'arrivais à les entendre. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'utilise cette particularité. Et plus tard, j'aimerais vraiment, vraiment écrire pour orchestre, pour des plus grosses formations. J'ai même l'idée peut-être de cette première composition, de la garder très, très longtemps et peut-être quand je serai plus âgé et puis... je serai un peu à la fin de ma carrière, de réécrire une version pour orchestre. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. Quoi.
Très bien, très bien. Le répertoire de ce soir, ici, sur la plage Châteaubriand, que vas-tu nous jouer?
Alors, j'ai adapté 2-3 standards de jazz, principalement. J'ai aussi une pièce classique, Le clair de lune, du coup, de Debussy. Et c'est principalement ce que j'ai fait. Et puis aussi, ma composition... Que j'ai pu adapter en plusieurs versions et dont une version juste pour vibraphone aussi qui est pas trop mal, je crois. Et puis si c'est possible un jour, je pourrais vous envoyer avec plaisir ma composition et un bon enregistrement.
Ah bah carrément, ça c'est sûr. Et revenir jouer et tout ça. Alors, tu es bien tombé, je pense, de ce côté-là. On s'arrête là pour aujourd'hui? Ouais, on s'arrête là. Fontin, ça te va?
Oui.
Super. Écoute, alors je te souhaite un bon concert. Merci pour toutes ces informations que tu nous
Merci
as données.
Merci beaucoup.
On est ravis de t'entendre sous peu.
Merci beaucoup. Voilà.